France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Week-end. Et ce matin, à l'occasion du festival Quai du Polar, en partenariat avec France Inter, festival qui débute ce matin et qui se terminera dimanche soir, une sélection de polars qui nous permettent de plonger dans les méandres de nos passions humaines, en compagnie du libraire Théodore Dillerin et avec les journalistes Christine Ferniaud, Éric Libiot et Yolaine Dechaneau. Bonjour Grégory Cohen.
Oh, bonjour Ali Rébéi.
Chef des restaurants One Place à Rungis, dans le Val de Marne, au menu de votre recette à partager ce week-end.
Alors, une salade qui va nous faire voyager, la salade fatouche au halloumi, grenade et zaatar.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Honorable professeur de philosophie dans la vraie vie, quel est le menu de votre chronique philo ?
Eh bien, ces derniers jours, deux personnalités, Nicolas Demorand et Laura Felpin, ont publiquement parlé de leur maladie. Question donc, faut-il parler de sa maladie ?
Bonjour Guimet Odissino.
Bonjour Ali.
Chef déjanté de la rubrique cinéma dans Télérama, qui deviendra notre ami cette semaine ?
Un type. Il a tout inventé pour arrêter les fous furieux.
Bonjour Sandra Colombo.
Bonjour Ali.
Comédienne et humoriste, au menu de votre chronique Mauvaise Langue en toute fin d'émission.
Eh bien écoutez, en tant que digne homonyme d'un des plus grands inspecteurs des enquêtes policières.
Non, lieutenant madame. S'il vous plaît.
Il est lieutenant, oh là c'est là. Vrai. Lieutenant Colombo. Eh bien je vais essayer de savoir qui est actuellement en train de nous voler.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse.
Quoi, cette dinguerie ? J'ai lu La femme de ménage en même pas 24 heures, alors que ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas ouvert un livre.
L'auteur de cette saga, c'est Freda McFadden, une Américaine qui a l'art de cultiver le mystère. C'est LE miracle de l'édition de cette année. Un livre en 3 tomes que l'on s'arrache. On le dévore dans le métro, le RER, à la terrasse des cafés. Mais qui est cette héroïne qui fascine autant ? Millie, la femme de ménage de la famille Winchester, une ex-tolarde dont les déboires rendent accro.
Je l'ai lu en 2 jours, tout simplement parce qu'il est tellement addictif qu'on est obligé d'enchaîner les chapitres.
Elle a une façon de faire, de nous emmener en fait dans l'histoire, de nous plonger vraiment dans le décor en fait.
Près d'un million d'exemplaires écoulés en France. La femme de ménage caracole en tête des ventes depuis de nombreuses semaines. Une prouesse littéraire qui stupéfie les libraires.
Extrait d'un reportage diffusé sur France 4 en mars dernier, La femme de ménage de Freda McFadden, l'un des grands succès actuels au rayon polar, et on y reviendra tout à l'heure. Bonjour Christine Ferniaud.
Bonjour Ali Rébéi.
Alias Princesse Christine, journaliste et critique à Libé Polar sur libé.fr. Bonjour Théodore Dillerin.
Bonjour Ali.
Alias Hagrid Bogos, libraire au comptoir des mots dans le 20e arrondissement de Paris. Bonjour Éric Libiot.
Bonjour Ali.
Alias l'ours grognon, mais gentil, rédacteur en chef d'Écran Total et grand amateur de polar. Bonjour Yolaine Chaneau.
Bonjour.
Je n'ai pas encore de surnom, mais ça ne saurait tarder. Et vous êtes la rédactrice en chef du Parisien Week-end avec en kiosque ce matin un spécial polar intitulé « Crime et engouement ». Alors évidemment, Théodore Dillerin, vous le constatez dans votre librairie, l'engouement pour le polar ne se dément pas. Un roman sur 5 vendus dans notre pays est un polar. Environ 15 millions d'exemplaires vendus en 2023, dont la moitié écrit par des romanciers francophones. C'est des chiffres que j'ai puisés dans le Parisien Week-end.
Vous êtes mieux renseigné que moi même d'ailleurs. Et oui, effectivement, ça ne se dément pas. Là, dans les archives que vous passiez, il y avait l'engouement autour de Freda McFadden, je pense qu'on en reparlera. Mais surtout, on arrive à un moment où c'est la saison, c'est quand même assez saisonné le polar. On a envie, quand il commence à faire beau, de prendre un poche, de se mettre en terrasse et de se laisser happer par des enquêtes. Donc ça va courir sur tout l'été pour le polar poche. Et puis après, en fin d'année, les grands noms en grand format se vendent à nouveau. Mais ouais, ça ne faiblit pas et j'en suis ravi.
Yolaine Dechaneau.
Oui, le polar, ça marche sur tous les formats, en fait, parce qu'on lit des polars, mais on regarde constamment des polars. Les séries ne sont, en fait, si on regarde bien, qu'une succession de polars. Et les Français adorent les faits divers. Et il faut voir que c'est un phénomène vraiment très français. James Ellroy, le pays dans lequel il vend le plus, après les États-Unis, c'est la France.
Le festival Quai du Polar à Lyon est la parfaite illustration de cet engouement pour le polar. Christine Ferniaud, vous le fréquentez depuis quelques années.
Je pourrais même dire depuis le début.
Oui, c'est la 21e édition.
Et oui, ça fait 21 ans que j'y vais et j'ai vu grandir ce festival.
salle qui reste tout de même très amicale, où on croise les auteurs dans la rue, au Palais du Commerce où ça se passe. Il y a quelque chose de très intime. Ce qui est formidable dans ce festival, c'est ce que vous disiez, c'est que le polar, c'est énormément de succès, mais c'est surtout les polars. C'est les littératures policières, c'est aussi bien le fait divers, comme vous disiez, que des romans noirs extrêmement écrits, que des thrillers très très réussis. C'est vraiment très large. Et c'est, ça explique aussi le succès constant.
Éric Libiau, c'est une boule à facettes, le polar, comme le disait Christine Fernieu. C'est du roman noir social, du polar historique, du cozy crime. On y trouve ce qu'on veut.
Voilà, c'est une grande librairie, pour prendre l'expression. Et c'est vrai que ça se féminise beaucoup, d'ailleurs, qu'est du polar. Et est une organisation. Il y a uniquement des... C'est Hélène Fischbach qui le dirige. Et toute l'organisation de quel est polar est féminine, ce qui est quand même très nouveau. Et les romancières s'y mettent aussi, et parfois dans des registres très gore, très noirs, très sanglants, ce qui est quand même assez nouveau, parce que habituellement, l'image des romancières était plutôt Agatha Christie, si je puis dire. Et donc, du coup, le panel s'ouvre, et ce qui est formidable, c'est qu'effectivement, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs.
Et puis, ce qui est passionnant avec le polar, c'est qu'il permet d'explorer tous les dysfonctionnements de nos sociétés, les passions humaines les plus inavouables, d'explorer le monde aussi, Théodore Dillon.
Ah bah oui, absolument. C'est un genre qui permet de recouvrir une quantité de sujets. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec des très bons polars historiques qui nous permettent de mieux comprendre l'actualité, mais également le psychologique, mais jusqu'au cosy, qui est beaucoup plus léger et où on va dans les méandres de notre société.
Et comme le dit la psychothérapeute Angelina Delcroix dans le Parisien Week-end, elle est spécialisée en criminologie, et je la cite, le polar permet d'observer la noirceur de l'âme. L'idée, c'est de se confronter au mal en toute sécurité, dans le confort douillet
de nos canapés. Ouais. Il y a quelque chose dans le polar qui est très étonnant. Il remplit un peu le rôle de ces récits cathartiques que sont les contes. C'est qu'en fait, ça finit bien quand même. Il y a une idée du bien et du mal.
Oh, toujours quand même.
Bah, toujours. Il y a un mort au départ, mais la police essaye de faire son travail. Et en plus, on peut se projeter dans des personnages mythiques que sont les enquêteurs. Et en effet, le lectorat est de plus en plus féminin et souvent très très attaché aux figures de l'enquêteur, que ce soit le commissaire, le détective, etc.
Et puis comme le dit, vous parliez de vertu cathartique, mais comme le dit l'auteur de Polar Thierry Jonquet, le roman noir est le fidèle compagnon de la barbarie. C'est ça qui vous plaît aussi, Éric Libiau, hein ?
Oui, il y a ça, et puis il ne faut pas oublier que c'est un genre politique et social, hein. Je pourrais rappeler, on l'a en fait les 80 ans de la série noire. Manchette a été le pape du néopolar. Il y a une grande étude qui vient de sortir chez Gallimard sur Manchette. Je rappellerai ce qu'il a dit sur le genre. Il a dit le polar est histoire de la criminalité et du gangstérisme, c'est-à-dire histoire de la violence obligée des pauvres après la victoire du capital. Et on l'a vu très tôt avec Dachalamet en 29, que le polar racontait aussi l'époque, alors racontait l'âme humaine, racontait les pulsions négatives qu'on peut avoir, mais raconter aussi l'époque politique et sociale.
Christine Fernieu.
Mais c'est, effectivement, Éric a raison, ça ne date pas d'hier. Depuis que le polar est né, le polar est là aussi pour raconter la société, les mots de la société. Moi, je citerais Jim Thompson, parce que dans ses premières années, entre Dachalamet, Jim Thompson, et cette espèce de merveille de la littérature américaine, on racontait la Grande Dépression, la misère sur les routes, les villes gangstérisées. Donc c'est ça le polar en fait, c'est raconter la société. Et alors je ne serais pas forcément d'accord avec vous, c'est la société, elle ne sent pas la rose, ni du début à la fin. Donc ça finit souvent de façon tragique aussi, mais bon, il en faut pour tous les goûts.
Le plus beau est le roman de McCoy, On achève bien les chevaux, de Horace McCoy, avec un film absolument formidable qui a été adapté, où il n'y a pas de crime, mais c'est juste montrer la... Fin,
c'est la misère.
C'est la misère, c'est la dépression, c'est l'époque, c'est un des plus grands romans noirs
qui existe. C'est comme chez Simenon, dans certains romans qu'on appelle les romans gris, il n'y a pas de crime, dans certains.
Il n'y a pas de crime, mais
dans
il y a...
Certains, les... Dans certains,
oui, bien sûr, Simenon, sur tout ce qu'il a écrit, oui, peut-être qu'il se lassait un peu du crime, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais trop... Simenon, c'est l'exploration de l'âme humaine, c'est le dur métier de l'homme, comme il disait, avec une majuscule à l'homme, et qu'effectivement, le crime en tant qu'acte sanglant, n'est pas toujours présent. C'est ce qu'il y avait de beau, c'est qu'on est tous parfois un peu borderline. Alors la plupart du temps, on est du bon côté du manche, mais il ne suffit de pas grand-chose pour qu'on glisse de l'autre côté.
Guillemette.
Puis il y a un truc aussi, je trouve que sur les auteurs de polar américains récents, ce qu'on pourrait appeler les auteurs des Appalaches, toute cette génération d'auteurs, on a aussi appris la nature, et j'allais dire la nature profonde de l'Amérique, mais dans tous les sens, c'est-à-dire la nature américaine. Mm-hmm. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'ils arrivent à construire des histoires dans une nature. Donc, on a aussi des bouquins qui vous parlent d'un décor. Mm-hmm. Parce que souvent, le polar, on se dit, ben voilà, ça se passe dans une chambre, même ça se passe dans une chambre d'ailleurs dont on a perdu la clé, donc on se demande pourquoi le type est mort à l'intérieur. Tandis que les Américains, ils ont su, très récemment, enfin depuis longtemps, mais très récemment, nous montrer des enquêtes dans des paysages et qui nous racontent la ruralité américaine, en fait, comme peu d'écrivains la racontent.
Christine ?
Ah mais c'est tout à fait juste, mais je rajouterais que la nature est là, elle est rude, mais les hommes sont rudes aussi, et les hommes et les femmes de ce rural noir sont des gens qui souffrent tous les jours, qui avant. Mais c'est ce qui est fascinant, c'est ça, c'est le quotidien, mais c'est un quotidien terrible. Et le quotidien terrible, c'est du roman noir.
Vous avez des exemples oui, à propos de cette école-là ?
Oui, il faut saluer le travail des éditions Gallmeister, par exemple, qui travaille beaucoup. Et un écrivain comme Chris Offutt, qui est quand même peut-être le plus grand auteur de polar, enfin pour moi aujourd'hui. Toutes ces histoires se passent effectivement dans la campagne entre guillemets américaine. Et c'est vrai qu'on est sorti. On est sorti des villes pour aller dans la nature. Et Chris Offutt est sans doute celui qui raconte le mieux la société américaine aujourd'hui.
Chris Offutt, publié aux éditions Gallmeister.
Et Pete Fromm, qui a le culot de raconter des histoires avec où il ne se passe rien. Et on est tenu et par l'écriture et par l'ambiance.
Rien à voir avec cette école littéraire du noir rural, entre guillemets. On va évoquer tout de même l'immense succès de Freda McFadden, Yolaine de Chaneau. Vous l'avez interviewée dans le Parisien Week-end. C'est l'autrice de la saga à succès, immense succès, La femme de ménage, c'est une trilogie. Freda McFadden, qui est également médecin spécialiste des lésions cérébrales.
Oui, alors elle est très étonnante cette femme, elle est très très discrète, on n'a pas pu la rencontrer en vrai, donc on a vraiment hésité à faire l'interview, à réaliser l'interview. C'était un échange par mail, parce que, dit-on, elle est très secrète, elle veut préserver
elle
son anonymat,
elle
souffre d'anxiété sociale, etc. Elle a vendu en France plus de 2 millions d'exemplaires de sa femme de ménage. Tout format confondu, bien sûr. La couverture n'a pas pu vous échapper. On voit un trou de serrure comme ça, avec un œil qui regarde, et c'est très pop, avec une couverture rouge.
Comment expliquer ce succès, Théodore Dillerin, dans votre librairie ?
Ça touche un public très large. Moi, je disais à Yolaine tout à l'heure, hors micro, que je suis étonné du nombre de passes culture que je passe sur La femme de ménage. Donc, on est sur un lectorat qui est quand même assez jeune. Dans les audios que vous passiez tout à l'heure, ça permet aussi de se remettre à la lecture pour bon nombre de personnes qui n'arrivaient pas à finir un bouquin depuis plusieurs mois. Donc, un public très jeune. Il y a un vrai phénomène aussi sur les réseaux TikTok, Instagram, etc.
Je sais que vous n'aimez pas trop, mais moi, j'ai commencé à lire le premier volume. Moi, j'ai trouvé ça assez addictif.
Ah,
c'est très efficace.
Et elle est douée.
Je trouve qu'elle est douée.
Ouais, ouais. Non, mais elle est douée dans l'efficacité. Moi, c'est là où ça pêche un petit peu, c'est pour le côté littéraire qui me manque. Mais c'est pas pour ça que le livre est mauvais et qu'il va pas parler à d'autres.
La trilogie La femme de ménage de Freda McFadden, disponible en poche notamment. Allez, dans un instant, une sélection de polar. En attendant, El Piaf a l'idée de nous présenter son ami du vendredi, Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Alors, cher Ali, dans un polar, alors il y a qui, hein, en général, pour combattre le mal ? Un flic, alors qui peut être cynique ou pas, alcoolique ou pas, macho, mais pas que. Ou alors une détective amateur. Ou alors Patrick Jane, The Mentalist, qui est tellement sexy et qui est tellement insolent avec les riches. Enfin, il peut y avoir plein de gens. Mais pour mettre des serial killers derrière les barreaux, il y a aussi des psys. Des profilers qui vous dessinent le profil d'un suspect avec une précision qui peut faire froid dans le dos. Alors, ces personnages, qui sont devenus des figures récurrentes des romans et des séries télé, ont un père dans la vraie vie. Le docteur James Arnold Brussel, qui, dans les années 50 aux États-Unis, inventa le profilage moderne. Je vous raconte le premier exploit de mon ami. Il était une fois le Mad Bomber. Alors, c'était un homme qui terrorisait l'Amérique en posant des bombes, depuis 16 ans hein, quand même, dans des endroits publics, des cinémas, des cabines téléphoniques, des consignes de gare, et qui annonçait ses forfaits par des lettres envoyées à la presse. En décembre 1956, il promet qu'il va recommencer. Alors là, la tension est à son comble, on n'en peut plus. La police n'a aucune piste, c'est la galère totale. Alors, elle consulte un psychiatre, mon pote Brussel, qui analyse les lettres que cet homme envoie aussi à une compagnie d'électricité, dont il était peut-être salarié, avant de se faire virer. Alors, attention, vous écoutez le diagnostic de mon psy. Pour Brussel, le poseur de bombes est paranoïaque, cardiaque. Il vit dans le Connecticut et voilà ses conseils au FBI. Chercher un homme trapu, d'âge moyen, né à l'étranger, catholique, célibataire, qui vit avec un frère ou une sœur. Et il existe des chances pour que, lorsque vous le trouverez, il porte un costume boutonné jusqu'en haut.
Là, vous plaisantez, Guillaume, parce que là, c'est pas du profilage, c'est de la divination.
Eh ben ouais, eh ben, il avait raison. Avec ce profil en main, la police fouille dans les fiches du personnel de la Consolidated Edison, la boîte d'électricité en question, et tombe sur un ancien employé, un certain George Metesky, 54 ans, d'origine lituanienne, et qui vit avec ses deux sœurs dans le Connecticut. Au moment de son arrestation, George Metesky demande aux agents de police de se changer avant de les suivre, et il ressort de sa chambre vêtu d'un costume boutonné jusqu'en haut. Voilà, voilà. Alors donc, après le profilage du Mad Bomber, donc il reste quand même un cas d'école, le docteur James Brussel a évidemment continué d'assister le FBI dans ses enquêtes, devenant officiellement criminologue et même commissaire adjoint du département de l'hygiène mentale pour la ville de New York jusqu'en 1972. Il a entre autres, et là il y a le cinéma qui revient, permis l'arrestation du tueur en série Alberto De Salvo, l'étrangleur de Boston. Mais il a aussi écrit des essais de psychanalyse sur Vincent Van Gogh et soupçonné un bon petit complexe d'Œdipe mal géré chez Tchaïkovski. Bon bah mon ami, ce père fondateur du domaine du profilage, en plus s'est chopé quand même l'un des surnoms les plus merveilleux que la presse ait inventé. Le Sherlock Holmes du canapé.
Notre nouvel ami James Arnold de Bruxelles, présenté par Guillemette Todisino. Tous les épisodes de l'Ami du Vendredi sont à podcaster sur l'appli Radio France. Juste après le disque, une sélection de polars à l'occasion du festival Quai du Polar qui débute aujourd'hui à Lyon. On écoute les Strokes, Last Night, une chanson sortie en 2001. Interprété Last Night.
Ali Rebelli.
partir de demain matin 9h, nous nous mettons tous les trois au roman policier.
Grand bien vous fasse.
Le crime qui paie, c'est celui-là. Avec de ravissantes histoires de viol, d'inceste, d'abominables tueries. Vous ne savez pas qu'on peut faire du bonheur ?
Je t'assure qu'il est complètement fou.
Sur France Inter.
Grand bien vous fasse, week-end, une sélection de polars à l'occasion du 21e festival Quai du Polar qui débute aujourd'hui à Lyon en partenariat avec France Inter. 135 auteurs et autrices rassemblés. Vous pourrez y retrouver Paula Hawkins, Linwood Barclay, Lisa Gardner, James Ellroy, Peter Swanson, Sandrine Collette, Franck Tillyès, Jérôme Leroy ou encore Marin Ledain. Alors, petite sélection de polars du moment. Et on va commencer avec une toute nouvelle collection publiée par 10-18 et Libération en poche. Théodore Dillerin de la librairie Le Comptoir des mots, Christine Ferniaud de Libé Polar. Vous avez donc choisi Les Suppliciés d'Apoigny de Sabrina Champenois et La Disparue du cinéma de Guillaume Tian dans cette toute nouvelle collection. Racontez-nous un petit peu, Théodore Dillerin.
Oui, absolument. Deux auteurs d'ailleurs qui seront aussi au Quai du Polar ce week-end. Donc en fait, il y a deux ans, 10-18, avec le magazine Society, avait lancé une série de petits livres true crime, donc des faits divers qui permettaient de relater des grandes affaires criminelles américaines. Et là, avec les journalistes de Libé, nouvelle collection, on fait exactement la même chose, mais en France. Et les deux premiers titres dans cette collection, c'est celui de Sabrina Champenois, Les Suppliciés d'Apoigny, donc une histoire sordide qui se passe en 84 dans Lyon, près d'Auxerre. L'histoire d'une jeune femme qui sort d'une cave où elle était séquestrée depuis plusieurs mois, en portant des carnets avec elle pour aller voir la police. Une autre jeune femme est retenue prisonnière. Il se trouve que toutes les deux ont été séquestrées, violées et humiliées pendant des semaines et des semaines. Et là commence une enquête. Et donc Sabrina Champenois retourne sur le terrain et nous raconte cette histoire. Et le deuxième titre à lancer cette collection, c'est La Disparue du cinéma de Guillaume Tion. Là encore, une histoire assez intrigante. En 95, une jeune femme sur le point d'accoucher appelle son compagnon qui travaille dans un cinéma de Strasbourg. Elle dit « Je pars à la maternité ». Elle n'est jamais arrivée. Elle était enceinte jusqu'aux dents, on ne l'a pas retrouvée.
Christine Ferniaud, sur cette nouvelle collection 10-18, alors, Libération.
Je voudrais dire que, bon, c'est pas parce que je suis à Libération, hein, mais le livre de Sabrina Champenois en particulier, moi, m'a épatée, parce que d'abord, c'est remarquablement écrit. On plonge dès la première minute, dès la première page, dans cette histoire où cette pauvre jeune femme séquestrée, est en train de courir, et elle essaye de se sortir de tout ça. C'est à la fois du crime réel, dont du true crime, comme on dit maintenant. Mais c'est aussi une façon de raconter les choses, et de raconter la société, et de raconter les féminicides, et la façon dont les femmes sont maltraitées, parce qu'elle est donnée comme ça à des hommes dans la cave. Enfin, tout ça est à la fois sordide, et en même temps, c'est journalistique, c'est-à-dire c'est jamais crapoteux. Moi, je trouve que c'est un livre exemplaire.
Guy Métodicino, vous avez lu hein, Les Suppliciés d'Apoigny de Sabrina Champenois.
Oui, mais je suis fasciné par le style en fait de Sabrina Champenois. C'est bon, de toute façon, c'est une grande journaliste qui a fait des très beaux portraits. Vous savez ce qu'on appelle les quatrièmes de couve de Libé. Elle a beaucoup écrit et tout. Mais son style, effectivement, enfin, à la fois quand même très vibrant, mais juste distancié, ce qu'il faut.
Absolument.
C'est-à-dire avec sa formation de journaliste. Fait que c'est une histoire atroce, mais elle arrive à nous le... On a l'impression qu'on nous raconte, mais vraiment un fait divers, mais comment on pouvait nous le raconter, c'est fou, mais dans certains grands journaux des années 40 ou 50, il y a quelque chose comme ça de, je sais pas, de quasiment exemplaire dans cette manière dont elle trace un fait divers pour nous raconter un monde et une société.
C'est la société dont elle parle, absolument.
Et évidemment, le patriarcat, la violence des hommes et tout, c'est vraiment très beau.
Les Suppliciés d'Apoigny de Sabrina Champenois et la Disparu du cinéma de Guillaume Tion, c'est publié dans la toute nouvelle collection 10-18 Libération en poche. Alors vous, Éric Libieux, vous avez choisi un livre de Benjamin Dirsten, Bleu, Blanc, Rouge, et c'est publié chez Flammarion.
Voilà, Bleu, Blanc, Rouge au pluriel. Alors pour moi, c'est la grande révélation, même si c'est pas son premier bouquin à Dirsten, c'est la grande voix et la grande révélation de ce début d'année. C'est 768 pages, c'est le premier tome d'une trilogie qui va faire autant de pages d'ailleurs, les trois. Et c'est ni plus ni moins que la comédie humaine et la France politique des années 70-80. Et alors, c'est aussi son style dont il faut parler, hein, depuis la révélation de Ellroy dans les années, à la fin des années 90. Il y a un nombre d'épigones de Ellroy qui se revendiquent de lui, de son style haché, saccadé, et en général, c'est pour plutôt le mauvais que pour le bien. Et lui, au contraire, Dirsten a complètement... il assume, il a complètement digéré, il a réinterprété le style de Ellroy. Et ces 768 pages passent à une allure absolument formidable, donc qui décrit, là on en est à Giscard, on en est à la France-Afrique, on en est à Broussard, on en est au Sac, on en est à Messrine, etc. Le commissaire Broussard, la cavale de Messrine, la montée de l'extrême gauche, enfin vraiment toute la France politique, et puis ces deux héros, ces deux flics, c'est Marco Paolini et Jackie Liénard, le premier est à l'anti-gang, la seconde est au renseignement généraux, c'est aussi la garde de police bien évidemment, donc c'est le portrait de ces deux jeunes flics qui montent dans la hiérarchie et qui essayent l'un et l'autre de prendre l'avantage. C'est le grand livre de ce printemps. C'est vraiment admirable et j'attends avec impatience le deuxième tome qui va arriver, je crois, juste avant l'été et le troisième à la fin de l'année.
Moi, je rajouterais juste deux choses. C'est qu'il y a une façon extraordinaire de joindre la fiction et la réalité. C'est-à-dire, on a Alain Delon qui apparaît et puis un flic qui est complètement imaginaire. Et puis à la fin du premier tome, il est sacrément culotté ce garçon, parce que il termine sur un mot, pour une révélation de savoir qui est qui, et je ne vous dirai rien. Et on est là, on se dit, ah, et le deuxième tome, il paraît quand? Donc c'est quand même très fort.
Bleu, blanc, rouge de Benjamin Dirsten, c'est publié chez Flammarion. Christine Ferniaud, l'un de vos chouchous, c'est Caryl Ferré. Et son tout dernier polar, Grindadrap, j'espère que je prononce bien, c'est à la série noire qui... fait donc ses 80 ans. C'est un drôle de titre, Grindadrap.
Ah oui, tout à fait. Alors, mais il nous a habitués à des titres un peu bizarres. C'est vrai que c'est un écrivain voyageur qu'on l'a suivi en Afrique du Sud, qu'on l'a suivi en Australie, en Afrique. Et là, on est aux îles Féroé. Et Grindadrap, c'est un jeu absolument morbide, une tuerie de masse. On rassemble... Enfin, les habitants des îles Féroé, les pêcheurs, rassemblent 800 000 dauphins, comme ça, ils les regroupent pour les assassiner. L'eau devient rouge, c'est une histoire abominable, c'est une réalité abominable. Et on pourrait se dire que Caryl Ferré, devant une réalité aussi affreuse, il aurait du mal à faire de la fiction, et il réussit à être à la fois dans le true crime, puisqu'on en parle, et chez Herman Melville, parce qu'on a un naufrage, on a des horribles méchants, on a ces dauphins extraordinaires, des femmes puissantes, des femmes fortes, qui sont elles les plus intéressantes, et un hommage à Jean Mallory, faut quand même être fort pour arriver à faire ça. Caryl Ferré, il fait parler les faibles. Là, il fait pas parler les dauphins, rassurez-vous. Et c'est vraiment un livre qui est totalement réussi avec une ambiance, un dynamisme et une belle écriture. Vraiment, c'est réussi.
Grindadrap de Caryl Ferré, c'était la série noire chez Gallimard. Alors Théodore Dillerin, pourquoi avez-vous choisi Le jeu de la rumeur de Thomas Mullen chez Rivage Noir?
Parce que c'est un des meilleurs polars que j'ai lu de ce début d'année. C'est le grand retour de Thomas Mullen qu'on connaissait pour la trilogie d'Atlanta où il s'intéressait au premier flic noir aux États-Unis. Ensuite, il avait fait un petit détour avec un livre tout seul qui s'appelait La dernière ville sur Terre, qui est absolument excellent. Et là, retour chez Rivage, c'est le premier d'une trilogie. Le jeu de la rumeur, on est à Boston en 1943. C'est assez classique sur la forme. L'histoire d'un côté d'une journaliste qui essaie de publier des papiers sur des attaques antisémites qui ont lieu à Boston. Donc 1943, je précise, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en parallèle de ça, un flic qui doit enquêter sur la mort suspecte d'un ouvrier allemand lors d'une manifestation, d'un rassemblement. Donc on a ces deux trames qui vont cheminer en parallèle jusqu'au moment où, bien sûr, ça je vous gâche rien, parce qu'on le voit venir assez rapidement, tout cela est lié et se rejoint. Il arrive, Thomas Mullen, à faire du roman historique où on apprend plein de choses sur notamment l'antisémitisme aux États-Unis, donc de l'autre côté de l'Atlantique, pendant la Seconde Guerre mondiale, et en même temps un livre absolument prenant et des personnages forts qu'on peine à quitter.
Et ça s'appelle donc Le jeu de la rumeur de Thomas Mullen chez Rivage Noir. Pour les petits budgets, Yolaine de Chanot, vous avez choisi un poche publié chez HarperCollins. C'est Glen Afrique de Karine Giebel.
Oui, Karine Giebel, c'est une des grandes, alors l'expression est un peu galvaudée, mais reine du polar et du thriller en France. Elle est plutôt sur le thriller psychologique. Glen Afrique, c'est vraiment c'est un bon pavé quand même, mais on se laisse embarquer dans l'histoire de ce garçon différent qui va être molesté toute sa vie, qui va à un moment se défendre, commettre un meurtre et être évidemment accusé, emprisonné, alors que lui est plus fragile que les autres, etc. Et on s'embarque là-dedans, on retrouve des personnages formidables et on revient toujours à cette idée que c'est une image de la société qui est renvoyée à travers ces êtres qui tout d'un coup débordent parce qu'en fait... on les met dans des cadres d'une, d'une grande violence.
Glen Afrique de Karine Gibel en poche chez HarperCollins. Alors, Éric Libio, vous avez beaucoup aimé Les Saules de Mathilde Bosso, publié au Seuil.
Mais je vous le confirme, Ali, effectivement, et je parlais tout à l'heure de la féminisation du polar. Là, c'est un premier roman, et pour moi, c'est vraiment la naissance d'une écrivaine absolument formidable. En plus, c'est dans un genre assez noir et très particulier, parce que ça se passe, on parlait tout à l'heure des Américains qui situaient leur roman dans la nature. Là, effectivement, ça se passe dans un petit village breton. C'est l'histoire d'un village qui, d'un coup, est secoué par la découverte d'un corps, hein, de la fille du pharmacien, Marie. Et apparemment, la personne qui est au centre de l'affaire, c'est une jeune fille qui s'appelle Marguerite, qui semble avoir été témoin. Et ce qu'il y a, alors, il y a évidemment les rivalités, la jalousie, et petit à petit, on commence à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais ce qu'il y a de formidable chez Mathilde Bosso, c'est son style, son écriture, qui est à la fois très écrit et très parlé. C'est très compliqué. C'est vrai que dans le polar, il y a très souvent une espèce de... Il y a une voix, alors parfois c'est au jeu, quand c'est Raymond Chandler, quand c'est d'autres grands écrivains qui racontent, qui prennent la plume. Et parfois, c'est aussi écrit avec distance. Et là, c'est exactement... à mi-chemin. Et elle a une façon d'écrire, d'être très empathique par rapport à son histoire et à ses personnages, et en même temps suffisamment à distance pour que le lecteur ne soit jamais perdu et essaye de comprendre à peu près comment les choses se dessinent. C'est vraiment un style absolument splendide et magnifique, et j'attends avec grande impatience son second roman.
Les Saules de Mathilde Bosso, c'est publié au Seuil. Christine Fernieu, que raconte On ne sait rien de toi de Fabrice Tassel à la Manufacture de Livres?
Eh bien, ce qui est formidable avec Fabrice Tassel, c'est qu'on a l'impression qu'il ne parle de rien, qu'il n'y a pas de tintamarre, il n'y a pas de bruit. Ça, c'est le contraire de tous ces thrillers dégoulinants où ça hurle dans toutes les caves. Alors là, on fait l'émission complète. Oui, hein. Voilà. C'est plutôt une ambiance à la Simenon avec une montée en puissance. Enfin, d'abord, c'est un homme, Charles Perrière, c'est un grand flic. Pour lui, c'est la justice d'abord. On doit se tenir, la famille doit se tenir. Et très vite, il est rongé par ses contradictions parce que, en fait, il mène une double vie. Je vous en dirai pas plus parce que ce serait vraiment gâché. Et Fabrice Tassel, avec une écriture d'une élégance où Simenon pourrait prendre des leçons tellement c'est pur, il décrit le mécanisme de l'emprise. Il montre à quel point cet homme peut être doux, mais que les femmes qui sont autour, qui sont dominées, sont elles-mêmes des femmes doubles. C'est une écriture sur toutes les nuances de gris qu'on puisse imaginer. Donc c'est vraiment un tour de force. Un exemple, et j'arrête là. Au tout début du livre, c'est un anniversaire, en fait les 50 ans de Monsieur Perrière. Et au début de la scène, il y a une petite fourmi qui passe comme ça, qui va sur la fourchette de Charles Perrière. La scène se passe, c'est la scène d'anniversaire. Et à la fin, on s'aperçoit qu'il l'a écrasé. Eh bien, c'est tout ça, ce livre. C'est une fourmi qui va d'un point à un autre et un auteur qui a le sens de l'écriture et du rythme.
L'anecdote de la fourmi m'a donné envie de lire « On ne sait rien de toi »
Et il n'y a pas que ça.
De Fabrice Tassel à la Manufacture de Livres. Tiens, un livre que vous conseillez très souvent dans votre librairie, en poche, c'est « Chibumi » de Trévagnan, chez Gallmeister, dans la collection Totem. Chibumi.
Absolument. Et puis là, en plus, les éditions Gallmeister, donc dans leur collection Totem, viennent de faire une nouvelle édition qui est un peu jolie, qui brille, de ce livre de Trévagnan, qui pour moi est un des plus grands polars jamais écrits.
Un chef-d'œuvre.
L'histoire est très complexe et très dure à résumer en quelques secondes. Parlons de Nikolai L., qui est un tueur à gages le plus fort de sa génération, qui actuellement est retranché dans son château du Pays Basque, et une organisation internationale, la Mother Company, et sur ses côtes et veut le retrouver parce que ils ont des comptes à régler avec lui. Mais Nikolai L, c'est pas un personnage lambda, et il a notamment une philosophie, celle du Chibumi, et je ne vous en dis pas beaucoup plus parce que c'est un livre qui se découvre.
Ah, vous en direz pas plus là?
Je peux continuer.
Il a une enfance très particulière.
Donc on va remonter dans le Japon de l'entre-deux-guerres et puis jusqu'à
avec une mère sublime.
C'est absolument.
Il y a aussi une compagne sublime. Ouais. Non, et tout est sublime.
Merci.
Ah non, ce bouquin est incroyable, c'est une fascination constante.
Ça s'appelle donc Shibumi et c'est signé Trévanian chez Gallmeister dans la collection Totem. Un dernier pour la route, peut-être un classique, Éric Libiot, Le Grand Sommeil de Raymond Chandler, oui, c'est pour la même, série noire, voilà, en quelques mots.
C'est quand même pour fêter les 80 ans de la série noire que Stéphanie Delestré dirige avec maestria. Elle ressort tous les grands polars. Le Grand Sommeil, parce que c'est l'apparition, c'est le premier roman de Chandler, c'est l'apparition de Philippe Marlowe, bien évidemment, qu'on a aussi vu au cinéma. Filmé par Hawks avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall. En tout cas, alors Chandler, c'est l'espèce de pessimisme coloré ou de l'optimisme sombre. Il est un peu entre les deux. Et c'est une façon de raconter, là aussi, là encore, comme faisait Manchette, la lutte des classes. On comprend rien au roman. Hein, on se souvient de cette anecdote qui est vraie d'ailleurs, parce que j'ai été vérifié dans la lettre de Chandler. C'est Hawks et Bogart qui se disputaient pour savoir si un des personnages était suicidé ou avait été assassiné. Ils ont demandé à Chandler qu'il leur a répondu, mais je n'en sais strictement rien. Et c'est donc une vraie anecdote, mais ce livre a le charme fou de ces années-là, et puis Raymond Chandler, avec Dashiell Hammett ou avec Thompson, dont Christine va parler, c'est vraiment le grand patron patron du polar de ces années-là, des années 30-40.
Le Grand Sommeil, à lire ou à relire en poche à la série noire. France Inter, partenaire du festival Quai du Polar jusqu'à dimanche soir à Lyon.
Dites donc, Ali, vous avez oublié un petit truc? C'est moi. Alors, samedi 5 avril, écoutez bien, chers auditeurs et auditrices, samedi 5 avril, entre 10h et 11h30, je répète, entre 10h et 11h30, puis entre 14h30 et 17h, entre 14h30 et 17h, Ali Rebehi signera son nouveau roman, son cosy mystery Tantalis au Palais de la Bourse à Lyon.
Bon, voilà.
Soyez-y.
Je donnerai votre chèque après. C'est un peu le. Et d'ailleurs, vous retrouverez toute la sélection de nos amis autour de la table sur l'appli Radio France. C'est un peu le Sherlock Holmes de la philosophie. Je suis son modeste faire-valoir, Watson, Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello, la philosophie. C'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser. Hein. Personne. Jamais.
Alors ce matin, Thibaut, vous nous parlez de vulnérabilité, de force.
Oui, Ali, je voulais revenir sur deux paroles fortes prononcées ces derniers jours. La première, donc, c'est celle de notre collègue Nicolas Demorand, le co-animateur de la matinale d'Inter, qui a révélé qu'il était atteint de bipolarité depuis des années. Et la deuxième, c'est l'annonce de l'humoriste et comédienne Laura Felpin à propos de son cancer de la thyroïde. La succession de ces deux paroles et la conjonction de ces deux personnalités conduit, je crois, à questionner notre regard sur la maladie et sur la vulnérabilité qui est associée. Ces deux annonces ont été largement saluées comme étant courageuses. Mais quel courage y a-t-il, au fond, à parler de sa maladie ? Pendant longtemps, et encore aujourd'hui, pour de nombreuses personnes, la maladie a fait partie et fait partie de ces choses dont il ne faut surtout pas parler. A fortiori quand elle est chronique ou quand elle est grave, cela relèverait non seulement d'une sorte de vie privée, ne concernant que la personne touchée, et puis, si on veut, au moins ses proches, et plus encore, d'une sorte de pudeur vis-à-vis des autres qu'il faudrait respecter en ne leur imposant pas les misères personnelles que l'on rencontre. Le premier courage, donc, quand on parle publiquement de sa maladie, c'est celui d'affronter cette morale toute rabougrie et méchante qui, au nom d'une supposée dignité, enferme le malade dans le silence et la honte.
Et le courage, c'est d'accepter une maladie qui ne dépend pas de nous.
Oui, c'est là la deuxième dimension de ce courage qu'il y a à parler de sa maladie. La maladie, évidemment, on ne la choisit pas, elle nous tombe dessus comme bien d'autres événements de la vie sans que l'on y puisse rien. Elle révèle donc une double vulnérabilité. On ne maîtrise pas tout et dans ce que l'on ne maîtrise pas, il y a des choses qui nous affaiblissent ou qui nous font souffrir. Mais parler de sa maladie, se reconnaître malade et en même temps ne pas s'y réduire, c'est y faire face avec lucidité et justesse. Autant il ne dépend pas de moi d'être malade, autant il dépend de moi de faire quelque chose du fait que je suis malade. Le philosophe Michel Foucault explique comment le diagnostic, les examens, les discussions avec les médecins, les traitements et même les changements de vie que la maladie implique peuvent être des occasions de se soucier de soi-même et de redéfinir son propre statut de sujet. C'est le paradoxe de l'assujettissement du malade à la maladie. Elle s'impose à lui, mais en s'imposant à lui, elle le révèle. C'était toute la force de la déclaration de Nicolas Demorand en disant « je suis malade mental ». Il dit certes qu'il est malade, mais il dit aussi « je suis ». Il réaffirme la puissance de son identité. Ce n'est pas la maladie qui le définit, mais c'est lui qui choisit d'ajouter au récit de son identité la dimension de sa maladie. Au fond, donc, cela peut nous conduire à repenser la vulnérabilité. La maladie est assurément un révélateur de cette vulnérabilité. Elle est bien la preuve que nous pouvons être blessés en notre condition et souffrir de cette blessure. Contre toutes les valorisations de la force, de la jeunesse et du dépassement de soi, elle rappelle donc la contingence et la limite de notre existence. Mais l'expression de cette vulnérabilité change la donne. Elle peut être le point de départ d'une reconquête de soi, le moyen de se redécouvrir dans le courage déployé pour faire face, le courage d'être soi, malgré tout, envers et contre tout. Et c'est là que la reconnaissance de la vulnérabilité peut révéler une force donc insoupçonnée. Et c'est de cette force-là que Laura Felpin et Nicolas Demorand ont témoigné, parce qu'il faut de la puissance pour danser avec la fragilité, ou comme le disait le poète René Char, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil.
Guillemette.
Bon, d'abord, c'est très beau de finir sur cette phrase de René Char. Et c'est incroyable de finir là-dessus, parce que je veux. Voilà, je ne m'attendrai. Enfin, je ne dirai pas trop de choses, mais j'ai fait une interview de Laura Felpin après qu'elle ait déclaré sa maladie. Je ne savais pas comment l'aborder. Est-ce qu'elle n'allait être plus que ça, c'est-à-dire cette maladie-là? Et en fait, elle-même a tout cassé de mes inquiétudes. Elle m'a envoyé un texto en me disant: et si on se mettait en plein soleil? Il fait beau aujourd'hui.
Et, j'en profite...
et à partir de là, on a parlé d'autres choses.
Et j'en profite pour embrasser très fort Laura Felpin, qui est une fille absolument formidable. Merci beaucoup Thibaut de Samory. C'est dans la lignée de votre chronique que j'en profite pour recommander le livre de Ruin Augien, Mes mille et une nuits, La maladie comme drame et comme comédie. C'est publié au Livre de Poche et c'est vraiment un grand livre sur la maladie, hein, Thibaut.
Oui, c'est un grand livre sur la maladie qui a notamment, entre autres, intérêt le fait de confronter un grand philosophe professionnel comme l'était Ruin Augien à la réalité de la maladie qu'il va ressentir, qu'il va éprouver pendant plusieurs années. Et donc, il y a tout un travail de déconstruction des certitudes. Et pour le coup, là, cette redécouverte du sujet, de qui il est, c'est assez fascinant, ce récit-là.
Tous les épisodes de votre chronique sont à podcaster, Thibaut, sur l'appli Radio France. Après les nourritures intellectuelles, les nourritures bien terrestres de notre chef Grégory Cohen, du One Place à Rungis. Enfin, Grégory, je dis bien terrestre, mais là, c'est plutôt... Parce que j'insiste sur le bien, parce oui. que c'est, d'habitude, c'est roboratif. Mais là, ce matin, cette recette est plutôt légère.
C'est une recette qui s'accompagne avec les beaux temps. Alors, vous savez, Ali, il y a des plats qui vous racontent un territoire, une lumière, un art de vivre, et la fatouche en est un parfait exemple. C'est une explosion de textures, de parfums, de couleurs, et symbole du Levant ensoleillé. Alors, évidemment, c'est une salade, donc il nous faut des légumes, il nous en faut plein même. Un concombre, trois tomates bien mûres, un petit oignon rouge, un poivron rouge, des radis, 6, ne soyez pas radins, spécial dédicace à Eric Libio, un bouquet de persil plat et de menthe fraîche, une demi-grenade, alors les graines seulement, deux pains pita ou libanais, de l'huile d'olive, donc là on est un tout petit peu plus gras, hein, mais c'est normal, du sumac, sel, poivre, et puis alors là on va rajouter du halloumi, c'est un fromage chypriote exceptionnel.
On dit halloumi, grammes. Mais on peut dire halloumi aussi.
On peut dire en fait comme on veut, en réalité, là, on peut dire aussi allumi, ou... bref. Le principal,
la
c'est
question,
de se faire
c'est pas comment on dit, c'est où est-ce que ça se trouve.
À peu près partout aujourd'hui
on le trouve,
et ce qui est génial avec
alors,
ce fromage...
Alors le halloumi, expliquez ce que c'est un fromage qui ne fond pas à la cuisson.
Voilà, c'est un fromage chypriote qui ne fond pas à la cuisson, qui se colore, qui grince un peu sur les dents, c'est super sympa et très 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 bon. Donc un peu de farine, une cuillère à soupe de zaatar, c'est un mélange d'épices, le jus d'un citron bien juteux, de l'huile d'olive... j'ai déjà dit de l'huile d'olive ou pas?
Il y a encore d'autres ingrédients parce que j'ai l'impression.
Et c'est tout, en gros.
Ah oui.
Et on y va. La base de cette recette, c'est profondément la générosité. Alors on commence par détailler les légumes, les concombres, les tomates, le radis, le poivron rouge en dés. On émince l'oignon, puis on cisèle généreusement la menthe, le persil. On réunit tous les ingrédients dans un grand saladier. On y ajoute également la salade. On déchire la pita à la main, on la colore à la poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive, j'en ai parlé. Ou pas.
Okay.
Une fois qu'elle est bien dorée et croustillante, on saupoudre de sumac.
C'est quoi le sumac pour ceux qui ne connaissent
pas? Le sumac, c'est une épice de couleur rouge, qui est un peu acide et astringente. C'est super bon et c'est une épice phare des anciens pays du Levant. Ensuite, on va tailler son halloumi ou halloumi en belles tranches épaisses. On le saupoudre légèrement de farine, puis on le parsème de zaatar. Le zaatar, c'est un mélange de thym, de marjolaine, d'origan, de sumac, dont on a parlé précédemment, ainsi que de sésame. On le fait dorer dans une poêle chaude avec un filet d'huile d'olive. Ensuite, on prépare sa vinaigrette. On mélange le citron, l'huile d'olive, le sumac, le sel, le poivre, on mélange dans la salade. On ajoute ensuite les morceaux de pita grillé, les graines de grenade, les tranches de halloumi. Voilà, c'est une salade à la fois vive, douce, croquante, fondante. Elle se partage dans la lumière d'un déjeuner estival ou lors d'un dîner entre amis. Chaque bouchée est une escale, chaque ingrédient un voyage.
La recette de Grégory Cohen est à retrouver sur son compte Instagram, Grégory Cohen Off, off avec
deux LF.
Dans un instant, la chronique Mauvaise langue de Sandra Colombo. Ce sera juste après avoir écouté Zao de Sagazan parler l'amour.
Découvre-toi, couvre ma bouche comme l'autre fois. Tu descends, quelle bonne idée de parler l'amour, parler d'amour, parler l'amour, je veux parler d'amour, avec toi, pas plus bas, là c'est bien.
Zao de Sagazan interprété Parler l'amour.
France Inter.
Bon bah, elle est gentille si on veut, mais malgré tout, elle manque un petit peu de fantaisie. Hein.
Rends bien vous face.
C'est cela, oui. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille.
La mauvaise langue de Sandra Colombo.
Alors, je ne veux pas être mauvaise langue, Ali, mais l'heure est grave. Non, je ne vous parle pas de tous ces trucs de maboule là, qui se passent actuellement dans le monde, non. Je vous parle de ce qu'il se passe dans nos poches. Car quelqu'un nous les fait, les poches. Un margoulin nous vole notre attention, notre sommeil, notre estime de nous-mêmes, nos relations et même notre intelligence. Pire que le pire des pervers narcissiques, notre téléphone nous fait miroiter la beauté du monde avant de nous en faire payer le prix en aspirant notre âme et nos données personnelles. Il nous laisse exsangue dès qu'il disparaît de notre champ de vision. J'entretiens avec le mien une relation toxique. Dès que je ne vois plus sa petite pomme, je suis à deux doigts d'y tomber. Alors je me tâte frénétiquement pour le retrouver. Oh, ne me regardez pas comme ça, Ali, vous faites très certainement de même. Ainsi que tous ces gens pourtant si brillants assis autour de cette table. Oui, on se touche en moyenne 221 fois par jour pour vérifier que notre Arsène Lupin personnel est bien avec nous. Parce que, soyons clairs, que serais-je sans mon téléphone ? Rien. Alors imaginez la torture qui a été la mienne quand j'ai appris en même temps que j'allais tenir chronique dans cette merveilleuse émission, mais
qu'elle était l'une des rares où nous ne sommes pas filmés. Mais comment je fais, moi, pour devenir influenceuse si je n'ai pas d'image pour nourrir mes réseaux sociaux affamés ? Hein ? Comment ? Alors l'autre jour, voyant mon désespoir, Thibaut de Saint-Maurice, tel un chevalier blanc, a sorti son bel outil pour me filmer. Malheureusement pour moi, il est philosophe, pas réalisateur. Voilà. Il m'a donc filmé en contre-plongée.
C'est vrai, j'ai vu.
Ce qui est très contre-productif hein, pour faire de belles images. Sachez-le. Voilà. Mais très instructif pour savoir qu'on a une sorte de gros pneu sous le menton. Merci Thibaut, vraiment, c'était génial. Mais c'est pas comme ça que je vais être autant aimée, likée et followée que Kim Kardashian, 357 millions d'abonnés sur Instagram. Alors vous allez me dire, oh Sandra, mais arrête tout ça et choisis-toi d'autres idoles que la fille qui fait du rien avec du vide. Oui, c'est vrai, je pourrais m'inspirer de Lucie Aubrac ou de Marie Curie, mais pff, oh, non mais attendez, mais qui peut me citer une phrase célèbre de Marie Curie ? Est-ce qu'elle en a une d'abord ? Non, mais ça pour touiller le radium, il y a du monde, mais pour trouver des phrases qui vont marquer l'histoire, non mais allô quoi ! Alors attention, hein, ne vous méprenez pas. Je trouve formidable toutes ces technologies. Bah, grâce à elles, on a accès à tout, tout le temps, partout. Quoi de mieux que d'admirer la vie des gens qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'avant au lieu de dormir ? Non, mais dormir, mais c'est tellement un truc de loser. En plus, vu que tous ces gens, on ne les rencontrera jamais dans la vraie vie, on peut les insulter bien tranquillement. Non, mais vous imaginez si on devait se respecter sur Twitter, nouvellement X, Donald Trump ne pourrait plus gouverner. Non, et puis de toute façon, est-ce que dire du mal de personne, c'est faire du bien à tout le monde ? Thibaut, vous avez 2 heures. J'ai lu une étude récemment qui démontre que, soi-disant, à cause de nos téléphones, on devient de plus en plus bête. Que leurs consultations frénétiques nous bousillent l'attention. Qu'on devient moins performant en raisonnement et en résolution de problèmes. Oui, bon, c'est pas faux. Oui, non, je sens bien que j'ai comme de la fuite dans les idées. Mais tant pis, je vous le dis, je ne vais pas m'arrêter. Non, parce que j'ai déjà arrêté l'alcool, la clope, le gluten, la raclette. Je ne peux pas, en plus, arrêter d'avoir des amis, même virtuels. Alors, on se retrouve sur mon Insta ?
Ben oui, mais je suis déjà inscrit, Sandra
oui,
Colombo, je vous suis.
Vous followez,
je vous suis
followez
sur Instagram. Tous les épisodes de Mauvaise Langue de Sandra Colombo sont à télécharger sur l'appli Radio France. Que faire des cons ? Ben, c'est le nom de votre spectacle, le mardi à 21h au point virgule à Paris.
Tout à fait, et en tournée également dans toute la France.
Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse Week-end. Merci aux amis du vendredi. Sandra, Thibault, Guillemette et Grégory, merci beaucoup. Christine Ferniaud de Libé Polar, Théodore Dillerin de la librairie Le Comptoir des Mots à Paris, Eric Libiot du magazine Lire notamment, et Yolaine de Chano du Parisien Week-end, avec en couverture une spéciale Polar. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Nathalie Romero, Lisiane Larbani et Cyrine Ben-Younes, avec l'aide d'Antoine Poitras, à la réalisation Claire Destacan. La programmation musicale était signée Valentine Chedebois. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron, et lundi avec le magazine Enquête de Santé de France 5, Comment prévenir et soigner les maladies professionnelles.